L'esprit de la pop réunifié par la team serrée de Pop United, Ygrande, MRS et Mathéa pour ce soir le meilleur de la scène de Manchester. L'émission indie du lundi et du jeudi, c'est maintenant. L'esprit mancunien revisité par Pop United, c'est tout de suite.
Liquid sky turns the day into night. The bars are filling with fighting Irish, smoking married couples dressing down for the weekend. Head shop girls and tightness tip tapping into blaring dance halls. Hard faced villains dressing up for drinking clubs while suburbia sits watching television.
Tattooed on the right hand and hate on the left. Stone roses just like angels. Heaven is this nice. Bouncing by the shop girls, but my bad sweatshop boys. So we're sitting in the snug bar, waiting for Jace the Ace. Bookies by the jukebox, doing it splendid to entertain. Look at Tony Wilson, live on Channel 4. Back from Rodney Marsh, his best on sale again.
Bah ça y est, c'est parti pour un nouveau numéro de Pop United spécial Manchester, on vous l'avait promis. Bonsoir à tous, bonsoir MRS, bonsoir Ygrande.
Hello. Bonsoir Mathéa.
Tout le monde en plateau donc pour vous présenter ce nouveau numéro de Pop United dédié à Manchester, à la ville, à ses courants musicaux bien sûr, à la pop de Manchester, cette ville turbulente du nord de l'Angleterre qui a embrasé toute la pop, l'Angleterre, l'Europe et le monde entier avec l'explosion du courant Manchester, sur lequel forcément on va revenir énormément, mais pas seulement, parce que c'est aussi la ville des grandes figures de la pop anglaise. Alors, vous avez travaillé ça, hein. Ça fait des semaines, MRS, que tu es là-dessus.
On est retourné à l'école, là. Hein.
Mais déjà, on est content de te retrouver, parce que ça faisait un moment que tu n'étais plus
Mais
en plateau.
Moi aussi.
Et que faisais-tu?
Il dépoussiérait ses disques.
Ah, ça, c'est bien vu. Ça, c'est bien vu. Alors, avant de rentrer dans la chronologie et dans les courants de Manchester, et puis de revenir sur, évidemment, un gros focus Manchester avec, évidemment, les Stone Roses et Carpets, Charlatans, James, tout ça, tous les gens qui ont fait danser les clubs européens et puis tous les
et
amateurs d'indie.
Qui nous ont fait danser.
Et qui nous ont fait danser.
Bah, on était tout petit.
On fait
hein,
quand genre. Même un tour de table. On fait un tour de table avant. Avec chacun son premier morceau mancunien, on dira. MRS, tu as choisi
Rock and Roll Star
d'Oasis. Ygrand, tu as choisi
And In Love de Smiths.
Et moi, j'ai choisi Transmission de Joy Division. Mais à toi l'honneur, MRS, avec Rock and Roll Star d'Oasis.
There's no easy way out.
À vos ordres, monsieur Dance Dance to the Radio. À vos ordres, monsieur Ian Curtis, Joy Division avec Transmission. Le choix de Mathéa pour ouvrir cette séquence, cette playlist spéciale Manchester dans Pop United. Et auparavant, messieurs, vos choix. Alors, c'était pas les moindres.
Groupe emblématique, bah oui, les Smiths Oasis. Enfin, les Smiths, je laisserai Grant disserter sur les Smiths. Spécialiste S. Smith.
Alors, il faut quand même préciser pour les auditeurs qui ne peuvent pas nous voir en studio que vous êtes venus avec
avec nos livres
avec
d'écoliers.
Avec vos livres d'écoliers. Voilà, alors bon, vous avez de la chance quand même parce que dans votre école, on apprend des choses plutôt sympathiques.
Ouais, formidable bouquin de John Robb, Manchester Music City 1976-1998.
Merci MRS parce que tu nous l'as offert aussi, Manchester Music City.
Avec une jolie préface de Jean-Daniel Beauvallet, d'ailleurs. Formidable bouquin avec plein d'anecdotes. Ce qui est vraiment intéressant dans ce bouquin, c'est les ramifications au-delà de l'histoire de chaque groupe. C'est les ramifications entre chacun de ces groupes. En fait, bon, il y a tout un tas de choses qu'on ne savait pas et qu'on va essayer de vous faire partager enfin, pour certaines choses. Le mieux, ce sera d'acheter le bouquin. Hein. De toute façon, on vous rappellera à la fin. Mais Oasis, par exemple, bah oui, Noel Gallagher qui est rodiste des Carpets. Mais quand il va à l'Hacienda, il croise un mec qui s'avère être le frère de Johnny Marr. Et c'est grâce à lui en fait, qu'ils vont rencontrer leur manager. Enfin, il y a tout un tas de... Voilà, c'est vraiment un bouquin formidable. Et c'est à partir de ce bouquin... qu'on a monté cette émission.
C'est vrai qu'on s'aperçoit avec ce livre qu'il y avait vraiment une scène à Manchester que tu viens d'en parler, MRS, qui avait vraiment beaucoup de ramifications. C'est ce qui crée une scène finalement. C'est vraiment ça qu'il y avait une place, c'était l'Hacienda où il y avait beaucoup de groupes qui se rencontraient, mais il y a aussi beaucoup de personnages qui avaient des activités passées et futures dans plusieurs groupes et ça faisait le lien.
Ils se sont tous croisés là-bas en fait.
Ouais, ils se sont tous croisés. On s'aperçoit que Morrissey chantait dans un groupe de punk et les Stone Roses aussi. Les Stone Roses ont commencé finalement très très tôt en 82. Et que tous ces groupes-là étaient et se connaissaient, étaient plus ou moins consanguins.
Alors ça, vous l'avez dit, oui, c'est vraiment le cœur de Manchester. Est-ce que c'est même pas l'origine de Manchester comme ville musicale, puisque le 4 juin 76, à l'invitation de Ward Devoto et de Pitchell et des Buzzcocks, les Sex Pistols venus jouer au Lesser Free Trade Hall. Dans une salle qui comptait moins de 42 spectateurs, eh bien, ils ont joué devant plusieurs membres de cette future scène de Manchester qui étaient présents. Tony Wilson, de Granada TV, mais aussi fondateur du label Factory. Peter Hook et Bernard Sumner, présents dans la salle eux aussi, bassistes et chanteurs, guitaristes de Joy Division, puis de New Order. Morrissey, futur leader des Smiths, avec Johnny Marr, lui aussi présent. Le producteur Martin Annett, qui sera le son du label Factory, et le chanteur de The Fall, Mark E. Smith, ainsi qu'un journaliste, Paul Morley, qui a beaucoup écrit sur la scène de Manchester par la suite, et Nick Hunnall, qui est aussi le leader du groupe Simple Red, qui n'est pas rattaché directement à la scène de Manchester, mais qui a cartonné quand même dans les années 80 et 90. Donc tout ce beau monde rassemblé dans une même salle le 4 juin 76.
Ça sonne comme un point de départ, ce concert.
Des Sex Pistols à Manchester, ouais.
La pierre fondatrice de tout ce qui se passera ensuite.
Tous ces personnages que tu as cités font souvent référence à ce concert qui a été pour eux une révélation. Bon, après, c'est vrai que quand on écoute la musique des Sex Pistols et qu'on écoute Morrissey, on voit pas bien le rapport, mais bon, il y a eu quand même... Comme je l'ai dit avant, Morrissey a chanté aussi dans un groupe punk qui s'appelait les Nosebleed.
Et... Les Stone Roses aussi au départ, les Carpets aussi d'ailleurs, c'était un peu garage. Enfin,
bon, oui, avant d'être Britpop ou Manchester selon les époques, la scène de Manchester a d'abord été une scène post-punk avec notamment les Buzzcocks.
And there are all guys, I'm addicts. There are all guys, I'm addicts. store with dirty magazines. Your mother was in the water, the stains on your jeans. You're an orgasm addict. You're an orgasm addict.
Middle class revolt.
Mondays, à l'instant on va y revenir, et auparavant The Fall, Marcus Smith avec Middle Class Revolt. Ça peut donner des idées, on est là pour ça aussi dans Pop United. Il est temps, non, de se révolter. Non, MRS n'a pas l'air vraiment convaincu. En tout cas, on naviguait dans cette
préhistoire. C'est une autre émission, Mathéa.
Certainement, et peut-être aussi nécessaire que celle qu'on est en train de faire. Préhistoire avec les Buzzcocks, préhistoire mancunienne de la scène de Manchester Buzzcocks, Orgasm Addict et The Fall, donc Marcus Smith, une des figures. On parlait aussi du Ruticulum, où on va en parler des figures comme ça emblématiques qui ont influencé et traversé les décennies. Celle de Marcus Smith en est une, et qui a notamment influencé Sean Ryder sur le flow, ce flow inimitable mancunien, et sur les textes.
Oui,
bien
Marcus
sûr.
Smith, c'est The Fall, c'est énorme, c'est 30 albums. Ils en ont fait un il n'y a pas très longtemps, en 2012, il me semble. Donc c'est vraiment un groupe aussi cité par tous les autres mancuniens.
Je me souviens juste un truc qui m'a marqué. C'est sur le fait qu'un journaliste anglais disait que Sean Ryder, c'était le seul type en fait qui à 20 ans faisait plus vieux que son père. Moi, il avait déjà pris de substance, mais c'est dommage, j'ai pas retrouvé l'anecdote précise, mais bon.
Voilà, c'était bon, les Happy Mondays.
C'est marrant parce qu'on a tous vu enfin les Happy Mondays sur scène, et c'est vrai que Sean Ryder avait l'air d'un mec à l'aise comme ça, mais dans le livre, on voit bien qu'au tout début, il était pas du tout à l'aise. C'est pour ça qu'il a fait venir son pote Baze sur scène, qui lui était lui pour le coup
à l'aise,
complètement à l'aise, et dansait sur tous les morceaux. Et puis il disait aussi que
il a mis en avant justement pour ça.
que les chansons, toutes les chansons des Mendes, elles passaient le bass test. Si bass commençait à bouger la tête et commençait à bouger sur en répète, c'est que c'était un bon morceau et qu'il pouvait aller l'enregistrer.
Bon, alors est-ce que c'était vraiment un bon test? Parce que je pense qu'il n'y en fallait pas beaucoup à bass pour bouger, qu'il bougeait sur n'importe quoi. Déjà parce qu'il était sous substance en permanence et qu'il ne fallait pas grand-chose pour se mettre en mouvement. Mais en tout cas, il a contribué fortement à l'image des Happy Mondays sur scène. Et avec eux, on est entré dans Manchester, dans l'explosion début 90 de la scène de Manchester avec le baggy, ce qui a permis de faire la synthèse entre l'acid house de l'époque et puis la pop.
Et de se niquer les nuques en dansant dessus, en fait.
Ça, c'est une sacrée formule, et de se niquer les nuques.
C'est pas très beau. Hein.
Non, mais c'est la réalité.
Ça ne pouvait venir que d'un sportif. Allez, entrons directement dans Manchester avec les Charlatans. We'll be right back. United, spécial Manchester. Ça continue, on évolue dans cette playlist dédiée à la ville de Manchester, au son mancunien, au baggy, au Manchester, Charlatans, Northside, World of Twist.
Alors World of Twist, un peu moins baggy, notamment sur ce morceau, mais voilà, groupe de seconde division, un peu sous-estimé. Il y a quelques anecdotes sympas dans le bouquin, notamment là-bas sur le leader, qui était vraiment a priori un sacré gus. Notamment quand il voulait un son de batterie, à un moment donné, il dit « Alors voilà, je voudrais un son de batterie qui fasse penser à un énorme batteur frappant sur une toute petite batterie. » Voilà, ce qui en soit, peut-être pas évident de voir ce qu'il voulait exactement, en fait. Et Northside, décrit par John Robb comme voilà, une bande de gamins, des vrais de vrais, suivis par des fans, des vrais aussi.
Un groupe éclair.
Groupe éclair d'un album, mais bon, voilà, typique avec ce son.
Emblématique vraiment du son baggy.
Exactement.
Moi, je me rappelle être allé, bien sûr, à Manchester. Et après le festival de Reading en 91. Et je me souviens, on était allé dans un supermarché, en fait. Parce que, bon, comme tout le monde, on avait besoin de se nourrir. Et il y avait Northside qui était diffusé dans le supermarché. Et il y avait des groupes, comme dans tous les supermarchés, de petites minettes et qui étaient complètement folles de Northside. Et je me rappelle de ça, quoi. Ça m'avait marqué. Parce que, bon,
excellent, ouais, tu vois, comme quoi ils
disent... Le jour, je me rappelle aussi qu'on était donc allé à Manchester pour toute la vague mancunienne baggy. Et quand on est arrivé à Manchester, on est arrivé avec un bus et on a vu en fait plein de mecs se balader avec des t-shirts Metallica. Et on s'est dit, putain, on s'est trompé de ville, c'est pas possible et tout. Il y avait des cheveux chevelus de partout. Et après, on a su qu'il y avait un concert de Metallica ce soir-là. Donc on a été un peu choqués, quoi, en arrivant là-bas.
Vous avez pris peur.
Northside, World of Twist et puis les Charlatans, alors emblématique, la bande de Tim Burgess qui a squatté pendant une bonne année au moins les sièges de l'Hacienda, tous les clubs mancuniens puis toutes les scènes européennes avec un album phare, Some Friendly, qui restera l'album des Charlatans.
Bon, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Ce qui est marrant aussi, c'est la façon dont le leader... dont le nom m'échappe,
Tim Burgess,
avait conscience de la rapidité avec laquelle son groupe est arrivé en fait sur le devant de la scène. En fait, il s'est écoulé quelques mois entre le moment où il répétait dans une cave et il le raconte très très bien là dans le bouquin.
Charlatan qui n'a pas été un groupe éclair. Ils ont fait plusieurs albums et une belle petite carrière.
Une belle carrière, un peu plus en retrait depuis un certain nombre d'années, mais ils continuent à se produire et continuent à sortir des albums.
En solo d'ailleurs.
Tim Burgess a fait des choses en solo et
en concert,
les Charlatans, c'était il n'y a pas très longtemps encore à Lyon, au Chaos, pour un très bon concert, on va dire concert souvenir, parce qu'il ne peut pas en être autrement, avec évidemment toujours, moi j'ai un coup de cœur, enfin j'ai eu un coup de cœur sur ce titre, et c'est le titre avec lequel ils ont toujours terminé leur concert, Sproston Green, qu'on n'a pas écouté ce soir, mais qui ressemble énormément à un morceau des Who. Et avec les Charlatans aussi, on a vraiment le lien entre le baggy et la Britpop qui arrive aussi quelques années après.
Moi, je me souviens aussi d'un super concert au Trans Club des Charlatans où tout le monde, mais alors vraiment tout le monde, du premier rang jusqu'au fond, tout le monde dansait. C'était absolument fabuleux comme concert.
Eh oui, il acquiesce, MRS, il acquiesce et il ne fera qu'acquiescer.
La larme à l'œil.
J'y étais.
sad time again. When I lose my friends, go walk about. I've got the bends from pressure. This is a testing time when the choice is mine. Am I a fool for love or foolish for desire? And I don't believe you're all I'll ever need. And I need to feel that you're not holding me. But the way I feel just makes me wanna scream. Come home, come home, come home. Come home, come home, come home. I've become the kind of man I've always hated. I'm in love insane with a sense of shame that I threw stones at the condemned. And now I'm slaying. Blessed by love in this land that's ruled by gods of lust and money. And I don't believe you're all I'll ever need. And I need to feel that you're not holding me. But the way
c'est un ordre aussi. Revenons à la maison, Come Home avec James, la toupie Tim Booth. Mais ça, private joke, je vous expliquerai un jour. Et James, bien sûr, Inspiral Carpets et Stone Roses, on est dans le lourd, on a fait un trio infernal là.
Ah, les Stone Roses, les Stone Roses. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les Stone Roses
qu'on n'aurait pas déjà dit.
Alors, on a passé This Is The One.
Oui, alors sur ce morceau en particulier, peut-être.
C'est marrant la façon dont ils l'ont composé, en fait, à l'issue de l'enregistrement du premier album, enfin d'une des sessions d'enregistrement qui était faite avec Martine Annette. En fait, ils l'ont composé pendant qu'Annette était allée siroter une bière, peut-être même plusieurs, au pub. Et en fait, ils l'ont composé. Pendant qu'il était
en l'absence de Martine Annette.
Et voilà, il est revenu. Ils avaient composé This Is The One.
Donc il fallait qu'il s'absente. En fait, Martine Annette n'était pas du tout fait pour s'entendre avec les Stone Roses. Du coup, ils ont même préféré John Leckie sur la production.
Ils n'ont pas conservé effectivement le boulot fait avec lui.
je ne sais pas si vous avez écouté le premier album des Stone Roses, c'est, le vrai premier album qui s'appelait Garage Flower. Et
c'est une sacrée souffrance.
Il y a quelques morceaux, en fait, comme
Gothic.
I Wanna Be Adored, par exemple, qui sont
repris sur le vrai premier album.
Sur ce premier album, et les versions sont complètement différentes et elles ne sont pas...
Elles ne sont pas terribles.
Non, elles ne sont pas terribles. Non. Elles sont pas terribles. Donc là, on voit le travail effectivement du producteur après qui a repris tout ça et qui les a glissés dans cette veine mancunienne.
Enfin, il n'y avait pas que la production. Tous les morceaux n'étaient pas terribles non plus, hein, du reste. Sur la première mouture, enfin, sur cet album.
Oui, mais il y a quand même 5-6 mais... morceaux de l'album.
Ah ouais,
hein,
tant que ça. Ouais, d'accord, ok. Ouais.
Un album qui est sorti à l'insu des Stone Roses, qui ne voulaient pas le sortir. Ah ouais. Qui est sorti plus tard.
On a oui, bien pourquoi. Après, quelques années après le phénomène Stone Roses, qui a influencé quand même en grande partie Oasis, parce que Liam Gallagher avait pour modèle Ian Brown.
L'immobilitude.
Alors, ce concept de l'immobilitude.
Non, c'est Noël qui en parle très bien là dans le bouquin de. Enfin, qui en parle très bien, qui en parle dans le bouquin de John Robb. Non, mais. En fait, il le voyait pas faire comme Brett Anderson, notamment, ni même comme Bez, ça avait déjà été fait. Donc voilà, leur concept, c'était l'immobilitude.
Voilà,
ça, très bien fonctionné d'ailleurs.
Bah oui, absolument.
Enfin, moi, ça m'a jamais dérangé. Les mains dans le dos, ça m'a jamais dérangé.